Vous écoutez, on lit pour vous.
Droit à l'avortement, lettre aux jeunes Québécoises, un texte de Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme du Canada, paru le 8 août 2024 dans la presse. Le 8 août 1989, la Cour suprême rend l'arrêt Tremblay contre Daigle, dans lequel elle statue que les droits constitutionnels commencent au moment de la naissance vivante. Une décision importante pour le droit à l'avortement. 35 ans plus tard, la ministre Soraya Martinez-Ferrada fait résonner le passé à travers sa propre histoire. À la fin des années 1980, Chantal Daigle et moi-même étions de jeunes femmes québécoises, au début de nos carrières. Aujourd'hui, vous aussi. À la fin des années 1980, nous étions pleines de rêves. Aujourd'hui, vous aussi. À la fin des années 1980, nous nous sommes fait dire que nous ne pouvions pas avoir recours à l'avortement. Aujourd'hui, vous avez ce choix. Et ça, c'est grâce, entre autres, à Chantal. Cette femme québécoise est tombée enceinte d'un homme violent en 1989 et souhaitait obtenir un avortement au Québec. Cependant, à la suite d'une injonction de son ex-conjoint qui interdisait à Madame Daigle de se faire avorter, elle a dû contester cette injonction à la Cour supérieure du Québec, à la Cour d'appel du Québec, puis à la Cour suprême du Canada. Un an plus tôt, la Cour suprême avait décriminalisé l'avortement avec l'arrêt R contre Morgenthaler, selon lequel le droit des femmes à la liberté et à la sécurité est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Ce fut un moment historique pour toutes les femmes canadiennes, mais en particulier pour moi. À peu près à la même époque, j'ai découvert que j'étais enceinte en retournant au Chili, que j'avais fui en tant que réfugiée des années auparavant. J'ai été confrontée à un choix déchirant. Poursuivre ma grossesse au Chili ou retourner au Canada, où j'aurais le droit de choisir. J'ai eu un avortement sûr et légal, sans peur pour ma santé ou ma liberté. Mais je n'aurais même pas eu ce choix sans les efforts de Chantal Daigle. Je le dois à elle, entre autres. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans ta vingtaine. Je sais que nombreuses sont celles de ta génération qui n'étaient pas nées quand Chantal Daigle s'est battue pour son droit et le nôtre. Son histoire est plus importante que jamais, parce qu'aujourd'hui, ce droit est à nouveau contesté. Danger de recul. Nous le voyons chez nos voisins du Sud, nous le voyons dans de nombreux pays avec des tactiques différentes, mais le même objectif, restreindre les droits des femmes. Et nous le voyons de manière alarmante chez nous. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial refuse de financer correctement les services d'avortement. Au fédéral, la droite tente de faire reculer le droit des femmes. Ils mettent en place des projets de loi, poussent des pétitions et participent à des événements qui sont tous anti-choix. Moi, je crois que le gouvernement doit être clair et résolument pro-choix. Nous le sommes. Nous protégeons les droits des femmes, qu'il s'agisse de rendre la contraception gratuite ou de talonner les provinces qui ne remplissent pas leurs obligations envers les services d'avortement. Nous nous efforçons également de briser le tabou qui entoure l'avortement, parce que mon histoire est celle de tant de femmes canadiennes. Nous ne sommes pas seuls. Après avoir publiquement raconté mon histoire d'avortement au printemps, j'ai été contactée par des dizaines de femmes et d'hommes qui m'ont offert leur soutien. Ces personnes sont convaincues qu'il faut plus que jamais défendre notre droit de choisir. Il faut maintenir la garde. Car non, la lutte n'est pas terminée. C'est pourquoi l'histoire de Chantal Daigle est si importante. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, a prévenu Simone de Beauvoir. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Que l'on soit pour ou contre l'avortement, il suffit d'être favorable au choix des femmes. C'est aux femmes de prendre cette décision et non au gouvernement. Pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour que j'aie le droit de choisir mon avenir, pour que tu aies le droit de choisir le tien, et pour les générations qui viendront après, je souhaite vous dire en ce 8 août, je me souviens et merci Chantal. C'était « Droit à l'avortement, lettre aux jeunes Québécoises », un texte de Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme du Canada, paru le 8 août 2024, dans la presse.
Les architectes demandent plus de flexibilité dans la conception des écoles. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 10 août 2024 dans Le Devoir. Les architectes manquent de flexibilité pour appliquer la signature architecturale des écoles imposée il y a 4 ans et demi par le gouvernement Legault, déplorent deux organisations qui les représentent. Une situation qui risque de nuire à la durabilité des bâtiments ainsi construits, en plus de complexifier la réalisation de ceux-ci, préviennent-elles. L'Ordre des architectes du Québec, OAQ, et l'Association des architectes en pratique privée du Québec, AAPPQ, ont tous deux inscrit un mandat au registre des lobbyistes le mois dernier dans le cadre de représentation auprès du ministère de l'Éducation, visant à améliorer les processus d'approbation associés à la signature architecturale des écoles, a constaté Le Devoir. Si c'est trop prescriptif, ça peut nous amener à standardiser et à avoir des écoles toutes pareilles, prévient la directrice générale de l'AAPPQ, Lynne Parent. Elle souhaite ainsi faire une mise en garde auprès de Québec au moment où plus d'une centaine de nouvelles écoles sont en construction à Montréal et ailleurs dans la province. Il y a un danger de glissement si on est trop prescriptif et qu'on ne laisse pas aux architectes la possibilité de proposer des choses, selon elle. Une signature prescriptive. Les démarches de ces deux organisations surviennent 4 ans et demi après la présentation, en février 2020, de la nouvelle planification immobilière des écoles par le gouvernement Legault. Celle-ci visait notamment à faire monter l'espérance de vie des nouvelles écoles à 75 ans, en plus de rendre celle-ci plus lumineuse et mieux aérée. Ce sont toutefois des critères concernant l'apparence de ces nouvelles écoles qui font sourciller des architectes. En 2020, Québec avait évoqué l'importance d'intégrer de l'aluminium du Québec, du bois et la couleur bleue dans la facture visuelle des écoles, notamment sur une stèle installée à l'avant des établissements. Le premier ministre François Legault avait alors évoqué son intérêt à ce que les écoles de la province soient reconnaissables au premier coup d'œil, afin de traduire la priorité nationale qu'est devenue l'éducation. Quand on regarde le document de la signature architecturale dans son ensemble, c'est un document qui est très intéressant, estime l'architecte Thomas Gauvin-Brodeur, associé à la firme Leclerc Architecte. Là où ça pose des questions, c'est lorsqu'on nous donne des éléments plus prescriptifs qui doivent obligatoirement être inclus dans la conception d'école, explique-t-il. Or, justement, des critères qui se voulaient très génériques entourant la signature visuelle des écoles de demain sont devenus, dans les dernières années, restrictifs dans leur mise en application, déplore le président de l'OAQ, Pierre Corriveau. Ce dernier blâme à cet égard le guide sur la signature architecturale mis à jour en 2023 et baptisé « Une nouvelle génération d'écoles ». celui-ci est venu préciser de quelle manière les éléments clés de cette identité visuelle devraient être intégrés aux écoles. C'est là qu'on voit apparaître pour la première fois les mots « aluminium » en parement extérieur, des gradins de bois, des éléments très spécifiques qui laissent peu de place à l'interprétation de la part des architectes, explique M. Corriveau. Les projets conçus par des architectes doivent d'ailleurs être soumis à un comité du ministère de l'Éducation qui doit trancher si la signature architecturale imposée a été respectée ou non. Sur le terrain, ça peut amener des problématiques, souligne Lynn Parent de l'AAPPQ. Dès que les exigences sont trop restrictives, vous nous amenez dans une manière de faire qui peut nuire à la créativité et à la possibilité de s'adapter aux demandes du milieu où ces écoles sont construites, souligne-t-elle. Il peut ainsi s'avérer difficile pour des architectes de s'adapter, par exemple, aux demandes de certaines municipalités qui ont des attentes urbanistiques concernant l'intégration des écoles au cadre bâti environnant, ajoute Mme Parent. La décision de Québec d'imposer le bois naturel dans la signature visuelle d'école pourrait aussi nuire à la durabilité de ces établissements, ce matériau n'étant pas particulièrement résistant aux conditions hivernales, relève Pierre Corriveau. Dans la simplification qu'on a faite du document initial sur la stratégie architecturale des écoles, on s'est mis à mettre non seulement des points qui sont inutilement restrictifs, mais en plus qui nous détournent de l'objectif, lance-t-il. Mettre du bois à l'extérieur, c'est un élément qui pourrit beaucoup plus vite, qui est à changer régulièrement et qui donc, en matière de développement durable, ne répond pas à sa fonction. Un recul dans la qualité des écoles. Cette problématique a d'ailleurs fait l'objet le 12 mars 2024 d'une soirée organisée par le média spécialisé en architecture et en design collectif et animé par son chef de contenu, Marc-André Carignan. Joint par Le Devoir, ce dernier raconte avoir été surpris par l'engouement de son événement baptisé « Ça gosse ou pas, la signature architecturale scolaire ». Qui a réuni la plupart des bureaux d'architectes qui dessinent des écoles dans la province. Ça a beaucoup fait jaser les architectes, qui ont alors été nombreux à déplorer le caractère prescriptif de cette signature architecturale, se remémore M. Carignan. Il y a même quelqu'un qui a dit « C'est rendu qu'on nous indique comment dessiner nos affaires, quelles couleurs et quels matériaux », lance-t-il. Lui-même juge que la signature architecturale des écoles imposée par Québec représente un recul inquiétant pour la qualité de nos bâtiments publics. L'AAPPQ et l'OAQ entendent ainsi continuer à dialoguer avec Québec afin de trouver un moyen de répondre aux préoccupations de leurs membres dans ce dossier. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit comme étant la clé, souligne Lynn Parent. Joint par Le Devoir, le ministère de l'Éducation assure pour sa part qu'il applique la politique de la signature architecturale avec discernement en donnant beaucoup de latitude aux architectes pour inclure ces exigences dans la conception des écoles. Les orientations fixées ne spécifient en aucun cas les éléments qui doivent être bleus, en bois ou en aluminium, ajoute le ministère, qui affirme que la liberté est donnée aux professionnels de les intégrer dans leurs projets selon les limites du budget, des échéanciers et des exigences de qualité. C'était « Les architectes demandent plus de flexibilité dans la conception des écoles », un texte de Zachary Goudreau, paru le 10 août 2024 dans Le Devoir.
Soins à domicile. Où en sommes-nous? Un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine Bel Âge. Les demandes de services de soutien à l'autonomie explosent alors que moins de 15 % des besoins sont couverts par le système public. Qu'en est-il du fameux virage vers les soins à domicile? C'est un secret de Polichinelle. Les Québécois veulent demeurer le plus longtemps possible à la maison. Depuis 20 ans, les annonces gouvernementales se multiplient auprès de la population afin de répondre à ce désir. Pensons à l'initiative « Chez soi, le premier choix » en 2003, à « Vieillir et vivre ensemble » en 2012 et plus récemment au programme « Bien vieillir chez soi » qui dresse un bilan de la performance des services de soutien à domicile tout en proposant des recommandations. Soyons honnêtes, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes et les défis à relever restent gigantesques. La pandémie a dévoilé à quel point les services à domicile étaient essentiels, alors que des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ont été carrément abandonnées. Au 30 décembre 2023, quelque 20 490 personnes étaient en attente d'un premier service de soutien à domicile au Québec, tandis qu'elles étaient un peu moins de 10 000 il y a 5 ans. Précisons que les soins et services à domicile s'adressent à tous ceux qui ont une incapacité temporaire ou permanente, de nature physique ou mentale, nécessitant de recevoir à domicile divers services et soins, incluant aussi les soins palliatifs. Les services peuvent également être destinés aux proches aidants qui accompagnent ces personnes. D'après les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 383 155 Québécois ont reçu un service de soutien à domicile au cours de l'année 2022-2023. Priorité au maintien à l'autonomie. La commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, Joanne Castonguay, soulignait dans son dernier rapport de la série « Bien vieillir chez soi » que le « citation » modèle actuel de soutien à domicile doit évoluer pour faire face au vieillissement de la population. Il faut passer d'un système de soutien à la perte d'autonomie à un système axé sur son maintien. Pour ce faire, il faut, ellipse, valoriser la santé et le bien-être tout au long de la vie. Il faut soutenir les personnes dès les premières apparitions de leur perte d'autonomie et ne pas attendre qu'il soit trop tard pour la freiner. Fin de citation. La commissaire a également confié à la chaire de recherche Jacques Parizeau en politiques économiques de HEC Montréal le mandat de faire des projections sur ce qui attend les Québécois d'ici 2040 en matière de soutien à domicile. Voici quelques-uns de ses constats. Le Québec connaîtra une augmentation massive des besoins en soutien à l'autonomie. De 324 400 personnes ayant des besoins en 2023, on prévoit une augmentation de 223 400 personnes d'ici 2040, soit plus 69 %. Le nombre d'heures dispensées à domicile et en résidence pour aînés, RPA, est relativement faible, 21,4 % du total des heures de service fournies en 2023, alors que les besoins y sont les plus élevés, 70 % du total des besoins en heures de soins en 2023. Le nombre d'heures dispensées en CHSLD représente la grande majorité des heures dispensées, tous milieux confondus, soit près de 60 % des heures dispensées en 2023. D'ici 2040, il faudra recruter 13 700 infirmières et 45 600 travailleurs en soins d'assistance dans le secteur public à l'échelle du Québec, et cela seulement pour maintenir le niveau actuel des services de soutien à l'autonomie par usager. En discutant avec les experts, il semble évident qu'un réel désir d'améliorer les choses se manifeste depuis 2022. On est en mode solution. Et le problème ne se résume pas à une simple question d'argent. Les rapports de la commissaire à la santé et au bien-être soulignent que les services de soutien à domicile dépendent d'une variété de prestataires publics, privés et communautaires et qu'ils sont dispensés dans le cadre de plusieurs programmes et mesures financières différentes. Malheureusement, il y a un manque de coordination d'ensemble. Quand on affirme que moins de 15 % des services sont dispensés par le système public, c'est une moyenne pour tous les services offerts. Citation : Il y a clairement un enjeu lié à l'aide domestique, alors que ce service est davantage fourni par des proches aidants, des organismes communautaires pour lesquels on n'a pas de données, ou encore des entreprises privées, constate Georges-Charles Thibault, commissaire adjoint à l'évaluation et directeur scientifique du CSBE. Dès que la perte d'autonomie est plus importante, le taux de réponse est beaucoup plus élevé notamment pour les soins infirmiers. L'intensité des services se concentre aujourd'hui sur une faible proportion des usagers, soit environ 10 %. Fin de citation, note le commissaire adjoint. Des enjeux de société majeurs. Encore aujourd'hui, la plupart des personnes qui reçoivent de l'aide à domicile disent l'obtenir de leurs proches. C'est majoritairement le conjoint, 28 %, ou un fils ou une fille, 45 %, qui est le plus susceptible d'être le principal aidant des personnes de 65 ans et plus pour l'aide à domicile, révèle des données de 2019 de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Les causes d'une telle situation sont multiples. Et le vieillissement de la population, conjugué à la pénurie de main-d'œuvre, pose des défis importants. Dès 2031, un Québécois sur quatre, 25 % sera âgé de 65 ans et plus, selon l'ISQ. On souhaite donc augmenter la capacité du réseau public afin de desservir plus d'aînés, notamment en favorisant des partenariats avec des organismes communautaires, des organisations d'économie sociale et des entreprises privées. Tout cela pourrait, semble-t-il, être facilement envisageable en ce qui concerne l'aide domestique et les soins personnels. Vous écoutez « Soins à domicile, où en sommes-nous ?» un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine Bel Âge. Divers programmes de financement, pas tous bien connus. Les programmes d'aide sont nombreux et souvent méconnus de la population. Ils dépendent aussi des services offerts dans chacune des localités ou CLSC. Autre bémol, on ne distingue pas le financement des fournisseurs de services de celui des usagers. Pour savoir si un usager y a droit, il peut contacter la personne responsable du programme en question à son CLSC. Elle pourra évaluer ses besoins ou ceux de son proche aidant. Selon la ministre des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la plupart de ces programmes seront revus et améliorés prochainement. Idéalement, il devrait n'y avoir qu'un seul programme de financement du soutien à domicile avec des modalités de paiement qui pourraient varier, suggère le dernier rapport de la commissaire à la santé et au bien-être. Le financement suivrait le patient afin de préserver sa liberté de choisir. De même, l'évaluation de la capacité financière pourrait être effectuée de manière distincte, par Revenu Québec par exemple, du processus d'octroi de services à domicile pour éviter qu'on fasse attendre des gens tant que leurs moyens financiers n'auront pas été évalués. Plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario, ont mis en place le copaiement pour certains services d'aide à domicile, calculé en fonction de la capacité financière des individus, soulignait en janvier dernier le plus récent rapport de la commissaire. Comment accéder aux services à domicile? En matière de soutien à domicile, les services publics sont la responsabilité première des CLSC. Il est ici question de services gratuits ou à faible coût. Quant aux centres intégrés de santé et de services sociaux, CIS, et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIUS, chacun a la responsabilité de coordonner les services de soutien à domicile sur son territoire. Si une personne souhaite obtenir du soutien à domicile, elle doit contacter le CLSC de sa région, qui évaluera sa situation et les besoins requis. On lui proposera ensuite un plan d'intervention ainsi qu'une prestation de service adéquate. Les soins infirmiers, le soutien psychosocial et l'assistance à la personne peuvent être fournis directement par le CIS ou le CIUS. On pourrait aussi faire appel à des prestataires externes, tels que des entreprises d'économie sociale, des agences privées et des organismes communautaires, pour compléter l'offre de services. Il est également possible d'avoir recours aux programmes d'allocation directe, comme le chèque emploi-service, qui attribue une allocation financière à l'usager. Le CIS ou le CIUS pourrait enfin offrir de l'assistance technique à domicile en prêtant des équipements spécialisés aux personnes en convalescence ou pour compenser des incapacités liées aux activités quotidiennes et domestiques. Quand il faut payer et comment se faire rembourser? Cela dit, le temps d'attente est parfois long avant d'obtenir des services, car tout dépend de l'urgence des besoins. Pensons à des personnes qui requièrent des soins en ergothérapie, par exemple, qui voudront se tourner vers une entreprise privée comme Bien chez soi, qui dessert entre 4 500 et 5 000 familles par année. À sa façon, ce type d'entreprise contribue à désengorger le système public. Citation. Dès qu'un aîné nous téléphone, on le réfère d'abord à son CLSC. Même les usagers qui paient pour nos services vont, la plupart du temps, se faire rembourser ou profiter de subventions. Fin de citation, explique Mme Green. Deux tiers des bénéficiaires de ces services obtiennent une aide financière gouvernementale. Certains veulent ajouter des heures de soutien à domicile à leurs frais, en plus de ce qui est subventionné par le public. Bien chez soi favorise le jumelage à long terme entre le ou la préposée, appelé bienveillant, bienveillante, et le bénéficiaire des services. Chez Amica, on offre des soins à domicile privés à travers le Québec grâce au travail d'aide-soignante. Le tarif horaire oscille entre $34.50 et $45 selon la durée des visites, peut-on lire sur le site Web de l'entreprise. En tenant compte des différents programmes d'aide ou de crédit d'impôt, la facture pourrait être allégée. Citation. On veut collaborer avec le réseau de soins à domicile existant, qu'il soit public, privé, communautaire ou sans but lucratif. On vise tous à offrir le plan le moins cher à l'usager. Fin de citation, ajoute Alison Green, qui a également cofondé l'Association des soins à domicile du Québec, regroupant une dizaine d'entreprises comme Bien chez soi. Citation, le problème n'est pas une question de budget, ni de joueurs en présence, ni de capacité à répondre à la demande, estime Mme Green. C'est plutôt que le réseau de santé publique n'est pas organisé et que les programmes et les subventions ne sont pas efficaces puisqu'ils ne sont pas en mesure de fournir les services chez la personne à domicile sous une formule universelle. Fin de citation. En d'autres mots, on voudrait que des montants ou un nombre d'heures de soins à domicile soient alloués pour l'ensemble des usagers du Québec selon l'évaluation de leur profil, mesure de l'autonomie fonctionnelle ou ISO-SMAF. Citation. C'est déjà le cas pour les personnes qui sont hébergées dans les CHSLD ou les ressources intermédiaires. Il serait plus équitable qu'on le fasse pour tout le monde. Fin de citation, ajoute-t-elle. C'était « Soins à domicile, où en sommes-nous ?» un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine « Bel âge ».